sur votre radio locale, une chronique pour comprendre l'économie avec Max.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil, à Créteil.
Max Deleval, bonjour.
Bonjour Laura, bonjour à tous.
Lors de la dernière rubrique, nous avons abordé l'analyse marxiste du fonctionnement de l'économie. Mais si les structures économiques paraissent dominantes, il demeure un enchevêtrement entre l'économique et le social. Quelques explications s'imposent, non ?
Oui, en effet. Le capitalisme, comme tout mode de production, repose sur une division sociale du travail. Par exemple, chez les chasseurs-cueilleurs, il y a une division sexuelle des tâches et une division par âge. Les anthropologues ont montré la grande diversité de ces divisions. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, cette division sociale renvoie à des conditions techniques de production et à des conditions matérielles de vie. Marx, quant à lui, développe une analyse historique des rapports sociaux et des interactions entre les acteurs individuels, entre groupes d'individus et les classes sociales.
Tu nous rappelles quel est l'apport de Marx sur ce sujet ?
Il introduit une sociologie du conflit. Il révèle l'existence de rapports de force concrets qui traversent les sphères économiques, sociales et politiques. Le concept de classe sociale devient de plus en plus central à mesure que le capitalisme se développe. Les classes sociales sont des collectifs concrets, structurés par une position économique spécifique, fondée sur la possession ou non des moyens de production. Mais au-delà de ces conditions de classe objectives, il existe une conscience de classe, une conscience sociale de l'intérêt et de la dynamique collective, qui permet de passer de la classe en soi à la classe pour soi.
Qu'est-ce qu'on peut en conclure ?
Eh bien, les rapports sociaux sont centraux et les conflits structurent les oppositions. Les inégalités ne sont pas les résultats d'une simple polarisation d'une société, mais le résultat des luttes sociales. Ces luttes sociales peuvent demeurer latentes, c'est-à-dire non exprimées ni dévoilées. Les classes supérieures réussissent à maintenir leur position en la rendant légitime, à travers l'héritage ou les diplômes par exemple. Les classes inférieures se trouvent dans une situation où ils se sentent sous-estimés et où elles ne trouvent pas les moyens de s'organiser.
Est-ce que c'est une vision qui est partagée par tous les sociologues ?
Un peu, mais avec des nuances. Weber reprend la notion de classe sociale en lui donnant une autre signification. Elle comprend des individus qui sont considérés comme semblables. En effet, ils partageraient des probabilités d'évolution similaires, les mêmes opportunités dans la vie. Ils n'en sont pas forcément conscients. La dimension conflictuelle n'est pas la plus déterminante. Chaque groupe a des fonctions spécifiques correspondant à des qualifications et à des conditions du marché du travail.
Peut-on synthétiser ces deux approches ?
Oui, d'abord elles sont hiérarchisées. La situation est conflictuelle, en particulier pour la répartition des ressources et du pouvoir qui en découle. C'est l'objet des luttes entre les syndicats et le patronat, des luttes entre les agriculteurs, les industriels de l'agroalimentaire et les grands distributeurs. L'État est souvent convoqué pour arbitrer ces conflits. Ensuite, les classes sont subjectivement marquées et remarquables par leur culture et par leur goût. Ils peuvent agir collectivement pour défendre leurs intérêts. On se souvient de notre analyse des conflits à propos de l'école. Nous prolongerons ces réflexions.
Ça marche, Max. Rendez-vous pour une prochaine rubrique, alors.
À bientôt.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Pour plus de chroniques éco avec Max, rendez-vous sur le www.radiopfm.com.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil, à Créteil.